Les gars, combé.
En fait, c'est toi qui me portes la poule.
Méga Combi présente
les frissons du quotidien.
Bah voilà. On est sur le bord de l'autoroute, là, à l'île d'Abo, là. C'est pas mal, ça. C'est le frisson spécial covoiturage ce soir. Et oui, le covoiturage, c'est de la merde, on vous l'avait dit. On tombe en panne.
Oui, bonsoir, excuse-moi de redéranger. J'attends l'assistance sur l'autoroute à 43 et il m'avait dit une petite demi-heure, mais là ça fait plus de 45 minutes. Donc je commence à m'inquiéter, on a un petit peu froid parce qu'il n'y a plus de chauffage maintenant. Mais ouf, pour pas nous trouver, je sais pas, on a même donné le kilométrage au 100e de mètre près.
Ah ouais.
Voilà, la 43 au kilomètre 44,9.
Direction Lyon.
Merci, c'est très gentil de votre part. Au revoir. T'es mort de rire.
Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Il passe quelqu'un là?
Oui, la société d'autoroute. Il fait peut-être parce qu'il ne vous trouve pas. Je peux pas être plus précis que ça. Hein. Moi, je commence à avoir envie de pisser. Et j'ai pas envie de faire dans l'herbe.
Je comprends. Hein.
Oui, c'est la société d'autoroute. Ah, d'accord. Ah, génial. Vous me rassurez beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Au revoir.
C'est-à-dire?
Ils ont eu la société. Il a eu la société dans l'autoroute et ils m'ont dit qu'ils allaient arriver bientôt.
Bientôt, c'est fou comme truc. C'est mieux, c'est bien.
Non, il a dit qu'ils étaient derrière moi.
Ah bah, il vaut mieux.
J'espère.
Parce qu'ils sont devant. Ils sont de l'autre côté, ils vont arriver de l'autre côté.
Non,
mais écoutez, le taxi est déjà autour de Dijon.
Des fois, ça arrive. Il y a des portes. Non, des fois, il y a des portes. Ah, tu vois. Ah, tu vois, il a pas menti, le monsieur.
Ah, mais ils sont juste là, c'est vrai.
Ah. J'ai rassuré. Ah non, il y en a déjà une.
Super.
Les frais sont du quotidien.
Et tant pis pour eux. C'est le dieu du stop qui les a punis. Covoiturage.fr, tous tes véhicules brûleront en enfer. Foi d'autostoppeur.
Every Wednesday. Todos los miércoles a las 6 de la tarde.
Tu es sur Méga Combi aussi, tu écoutes Méga Combi.
Ok, c'est parti.
Tous les mercredis à 18h.
Méga Combi, Prime Team.
C'est le prime time de Méga Combi?
Non, je crois que c'est la prime team de Méga Combi, non?
La prime team de Méga Combi. À 18h ce mercredi.
Le téléphone vibre. Vos questions au 04 78 56 12 39. Le téléphone vibre avec Alain Bédou.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du téléphone vibre. À l'heure où les déplacements prennent une place grandissante dans nos vies, nous allons de plus en plus vite, de plus en plus loin, mais la planète est au bord de l'asphyxie et l'on accuse souvent les transports de polluer. Et nous constatons aussi que les grandes infrastructures sont contestées, comme l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, les lignes à grande vitesse ou encore la 45. Alors, quel mode de transport, quel déplacement, quelle politique adopter pour aller vers un transport durable, économique et écologique pour demain? C'est la question que nous nous posons ce soir au téléphone vibre.
Le téléphone vibre, Alain Bédou.
Autour de la table pour discuter avec nous, Martine Plateforme, ministre déléguée au flux, au reflux et à l'écologie. Bonsoir madame.
Oui, bonsoir.
Jean-Jacques Pabougé, militant quotidien de l'immobilité et auteur de l'essai Dans l'angle du salon. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Tout de suite, un premier appel au standard.
Le téléphone vibre. Alain Bédou.
Oui, bonsoir, c'est à vous, vous êtes à l'antenne.
Oui, bonjour, je m'appelle Max, j'habite à Villers-les-Dombes et j'appelle parce que le projet de ligne TGV entre Tulle et Bourg-en-Bresse va couper ma salle de bain en deux. Et donc du coup...
Oui, oui Max, je vous interromps, on a bien compris votre problème. Madame la ministre, que pouvez-vous répondre à Max ?
Oui, alors oui, effectivement, hein, ces LGV peuvent créer un certain nombre de problèmes pour une minorité de riverains. Mais bon, quand on élève un peu le niveau de réflexion, il ne faut pas oublier que ces LGV permettent de relier des agglomérations jusque-là sans intérêt et qui, grâce à cette nouvelle infrastructure, vont attirer des investisseurs, donc de la croissance, donc de l'emploi et tout ça beaucoup plus vite.
Oui, alors en gros, il y aurait des sacrifiés pour une meilleure vie économique du pays. Max, vous êtes satisfait de la réponse ?
Bah pas trop, hein, parce que d'après les plans de cette LGV, le passage à niveau le plus proche se situe à une dizaine de kilomètres, ce qui signifie que pour aller des toilettes au lavabo, je vais être obligé de prendre ma voiture. Ou alors je prends le risque de traverser, mais là c'est un peu dangereux, enfin, surtout avec tout ce qu'on raconte sur les passages à niveau, enfin, moi ça me fait quand même un petit peu flipper.
Oui, alors...
Madame Plateforme ?
Oui, alors rassurez-vous Max, ça va effectivement vous créer quelques désagréments, mais le ministère a pensé à des solutions alternatives et peut vous fournir des poignées aimantées afin de vous accrocher au TGV lors de son passage.
Génial.
Ainsi, vous pourrez voyager sans billet jusqu'au prochain arrêt où des douches seront disponibles en gare.
Merci Madame la Ministre. Jean-Jacques Pabougé, une réflexion peut-être ?
Oui, bah, nous avons avec Max un bel exemple de la dictature du déplacement dans laquelle nous vivons, avec les paradoxes de l'injonction à aller vite, toujours plus vite, puisque Max aurait pu rester immobile dans sa salle de bain. Avec cette nouvelle infrastructure, il va être obligé de parcourir des kilomètres pour se laver les dents.
Alors, rappelons que vous, Jean-Jacques Pabougé, vous avez fait le choix de l'immobilité. D'ailleurs, on vous remercie d'être venu, parce qu'en principe, vous quittez rarement votre maison.
Oui, pour ainsi dire jamais, hein, c'est une éthique de vie. Je tiens à préciser que ce soir, j'ai fait une exception, car ça fait 3 ans que je n'avais pas quitté le coin de mon salon. C'est d'ailleurs de ce coin de salon que j'ai écrit mon livre, et vous savez, il n'y a que lorsqu'on est immobile que l'on perçoit le mouvement. Tous ces déplacements entraînent un aveuglement de l'humanité. Et moi, j'ai découvert des choses extraordinaires en restant immobile.
Oui, comme par exemple ?
Ben, par exemple, mon frigidaire. On n'observe jamais vraiment les frigidaires. Mais son moteur qui vibre au crépuscule, ça constitue un spectacle fascinant.
Oui, merci Jean-Jacques. Retour au standard du téléphone vibre.
Le téléphone vibre. Alain Bédot.
Oui, bonsoir, Sylvain, 35 ans, de Pierre Bénite. Moi, je voulais parler du prix des transports. Je fais 300 km d'autoroute par jour et ça représente un sacré budget. Donc, du coup, je voulais savoir s'il existe une politique qui favorise les transports plus économiques.
Merci, Sylvain. C'est une question pour vous, Madame la Ministre.
Oui, nous travaillons actuellement sur le développement d'un réseau autoroutier alternatif. À l'image de ce qui a pu être fait sur le transport aérien et ferroviaire, nous avons un projet intitulé Autoroute low cost. Ce serait une autoroute sans signalétique, sans aire de repos, sans le téléphone orange de sécurité, aucune limitation de vitesse, hein, ce qui permet aussi de se faire plaisir. En contrepartie, la bande d'arrêt d'urgence serait équipée de parcs-mètres avec un prix de 50€ la minute. Et cette réduction des coûts se répercutera naturellement sur le prix des péages.
C'est intéressant, Jean-Jacques Pabougé, une réaction peut-être ?
Oui, non, moi je voulais simplement dire à notre auditeur qu'au lieu de chercher le low cost, la meilleure manière de réduire les coûts, c'est d'arrêter de prendre sa voiture, donc d'arrêter de travailler et puis de rester chez lui, tout seul, immobile, à observer sa machine à laver par exemple.
Oui, merci Jean-Jacques. On prend un dernier auditeur.
Le téléphone vibre. Alain Bédot.
Oui, bonsoir Stéphane, 42 ans de Villeurbanne. Moi, je suis très intéressé par les théories de Jean-Jacques Pabougé, ayant moi-même entrepris un changement de vie pour aller vers plus de simplicité, plus de décroissance, plus d'ennui. Et donc,
Stéphane, votre question, s'il vous plaît.
Eh bien, ma question est pour Monsieur Pabougé, qui écrit dans son livre qu'il lui est arrivé de rester debout dans un coin de son salon pendant 35 jours. Mais comment a-t-il fait pour se nourrir, par exemple ? Parce que moi, j'ai essayé et au bout de 10 heures, j'ai eu une grosse crise d'hypoglycémie.
Oui. On a très bien compris votre question. Stéphane, c'est une question intéressante. Monsieur Pabougé, votre réponse ?
Oui, tout à fait. Écoutez, moi, ce que j'ai découvert depuis que je suis rentré dans ce mouvement des objecteurs de déplacement, c'est que la mobilité induit des besoins pour le corps humain. Comme le dit le slogan « manger, bouger », donc si on le retourne, on bascule dans le « pas bouger, pas manger ». On se sent très bien.
Alors moi, je trouve que c'est complètement irresponsable de tenir de tels propos sur les ondes. Moi, je me décarcasse à construire des viaducs et des aéroports pour faciliter la vie des citoyens qui vont justement gagner leur croûte au travail. Vous savez, monsieur, qu'il y a des millions de personnes qui sont touchées par la crise aujourd'hui et qui n'ont presque plus rien à manger. C'est pas en restant chez soi à rien foutre qu'on va aller chercher la croissance. Moi, tout ça, ça m'écœure.
Madame la ministre, je vous conseille de prendre une journée à rester figée, debout, à côté de votre lave-vaisselle. Vous allez passer une très bonne journée, vous allez découvrir les fondamentaux de la vie.
C'est ça, oui.
Oui, vous qui êtes censé observer le monde pour le rendre meilleur, sachez que lorsqu'on est immobile, on voit des choses que les autres ne voient pas.
Alors moi, je suis complètement contre l'immobilisme, et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis ministre.
Ouais, soyez utile, soyez immobile.
Bah, moi, je préfère être mobile et pas débile.
Ouais, mais regardez comme elle gesticule, c'est vraiment ridicule.
Le téléphone vibre.
Arrêtez de faire des mouvements
avec
brusques.
Alain Bédo,
gros débile.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir participé à cette nouvelle édition du Téléphone Vibre. Demain, nous discuterons de la polémique quant au futur parcours du Tour de France. Fallait-il vraiment faire arriver le sprint final à Bamako ?
Pour me rendre à mon bureau, j'avais acheté une auto, une jolie traction avant qui filait comme le vent. C'était en juillet 39, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois de rentrer si vite chez moi. Mais 20 septembre et je pars pour la guerre, 8 mois plus tard en revenant. Réquisition ma 11 chevaux légère, Strasbourg provisoirement. Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète une moto, un joli vélo moteur, faisant du 40 à l'heure. À cheval sur mon tof-tof, je me gonflais comme un bœuf, dans ma fierté de bourgeois, de rentrer si vite chez moi. Elle ne consommait presque pas d'essence, mais presque pas, c'est encore trop. Voilà qu'on me retire ma licence, j'ai dû revendre ma moto. Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète un vélo, un très joli tout nickelé, avec une chaîne de clés. Monté sur des pneus tout neufs, je me gonflais comme un bœuf, dans ma fierté de bourgeois, d'avoir un vélo à moi. J'en ai eu coup sur coup, une douzaine, on me les volait périodiquement. Comme chacun de valait le prix d'une Citroën, je furinais très rapidement. Pour me rendre à mon bureau, alors j'ai pris le métro, ça ne coûte pas très cher, et il y fait chaud l'hiver. Almayenne et Marbeuf, je me gonflais comme un bœuf, dans ma fierté de bourgeois, de rentrer si vite chez moi. Hélas, par économie de lumière, on a fermé pire des stations. Et puis ce fut la ligne tout entière qu'on supprima sans rémission. Pour me rendre à mon bureau, j'ai mis deux bons godillots et j'ai fait quatre fois par jour le trajet à pied aller-retour. Les Tuileries de Pont-Neuf, je me gonflais comme un bœuf, fier de s'offrir de mes corps pour un si joli décor. Hélas, bientôt, je n'aurai plus de glace, le cordonnier ne se mêle plus. Mais en homme prudent et perspicace, pour l'avenir j'ai tout prévu. Je vais apprendre demain à me tenir sur les mains. J'irai pas très vite bien sûr, mais je n'userai plus de chaussures. Je verrai le monde de bas en haut, c'est peut-être plus rigolo. Je n'y perdrai rien pas sur Rouen. Il est pas drôle à l'endroit.
Vous écoutez Méga Combi Transport et vous n'avez pas tort.
J'ai un très bon ami qui s'appelle Patrick.
Frédéric Mazella.
L'année dernière, il a acheté un appartement.
Patron de blablacar.com.
Il devait refaire le salon.
Leader en covoiturage.
Il a cherché un bon entrepreneur pendant très longtemps. Et il a fini par en prendre un peu au hasard, dans les pages jaunes, qui s'appelle Bruno. Au début des travaux, il n'avait pas vraiment confiance. Donc il venait tous les jours sur le chantier vérifier que tout se passait bien et surveiller le chantier. Au final, le résultat est superbe. Et Patrick a eu raison de faire confiance à Bruno. Mais il a passé beaucoup de temps à construire sa confiance. Il aurait pu faire plein de choses plus utiles avec ce temps. Il a tellement confiance maintenant qu'à chaque fois qu'il doit faire des travaux chez lui, il rappelle Bruno. Et Bruno fait les travaux et Patrick ne vient même plus vérifier que tout se passe bien. Donc il gagne énormément de temps. On estime qu'on perd en moyenne plus de 5 heures par mois à se construire des nouvelles relations de confiance avec des nouvelles personnes dans des nouvelles situations. À l'échelle de l'Europe, ces 5 petites heures représentent plus de 400 milliards d'euros de valeur perdue par manque de confiance. Pourquoi je me suis posé ces questions autour de la confiance ? Il y a quelques années, j'ai créé un site de covoiturage. Très très vite, nous nous sommes rendus compte que la confiance était cruciale pour l'organisation du covoiturage. Nous avons donc mis des profils en ligne. Par exemple, ici on voit Perrine, conductrice. On a sa photo, ses préférences, on a sa mini bio, on sait qu'elle est chef de projet dans une PME et qu'elle adore le ski. Et surtout, elle a 24 avis positifs d'autres passagers. Et ça me rassure. Alors vous allez me dire, comment garantir la fiabilité des avis ? Eh bien, c'est là qu'Internet a pensé à tout, puisque nous disposons maintenant des paiements en ligne. Grâce aux paiements en ligne, nous savons qui, quoi, quand, comment, combien. Et en couplant ces transactions avec les avis, on rend les avis beaucoup plus crédibles, donc on gagne en crédibilité, on gagne en confiance et on gagne en valeur. D'ailleurs, au passage, des centaines de profils confiance sur des centaines de sites différents, ça ne peut pas durer. Bientôt, nous aurons un seul profil confiance sur lequel tous les avis qui auront été laissés sur nous seront déposés, de manière à ce que nous ayons une sorte d'identité confiance qui nous permette d'échanger beaucoup plus rapidement en ligne et d'éviter d'avoir à reconstruire la confiance à chaque fois. Alors je suis convaincu, et je le constate jour après jour, que le couplage des paiements en ligne et des avis déposés est un changement aussi décisif pour l'économie que l'introduction de la monnaie. Alors si vous connaissez un super-héros capable de nous sortir de la crise et de ramener la confiance, c'est le moment de parler. Moi j'en connais un de super-héros. C'est pas Superman. C'est pas Batman. C'est Trustman. Trustman s'appelle Max dans la vraie vie. Max, il est comme vous et moi, mais son super pouvoir, c'est ses profils confiance sur les sites d'échange entre particuliers. Max, il se crée un complément de revenus en louant sa chambre d'amis à une Autrichienne. Max, il joue très bien du piano et il donne des cours particuliers pour se faire des compléments de revenus. Max, il loue la voiture de son voisin pour partir en week-end où il veut. Bref, il peut à peu près tout faire, Max. En un mot, il est libre, Max. On estime qu'on perd en moyenne plus de 5 heures par mois à se construire des nouvelles relations de confiance avec des nouvelles personnes dans des nouvelles situations. À l'échelle de l'Europe, ces 5 petites heures représentent plus de 400 milliards d'euros de valeur perdue par manque de confiance. Pourquoi je me suis posé ces questions autour de la confiance ? Il y a quelques années, j'ai créé un site de covoiturage. Le concept est simple : conducteur et passager partagent les frais de transport.
Ouais, je dois aller à la radio mercredi, tu m'emmènes ?
Ouais, pas de problème. Rendez-vous à 9h à l'opéra ?
Ouais, ça marche, mais tu seras à l'heure ?
Bah ouais, pourquoi ? T'as pas confiance ?
Ouais, bah je sais pas, on se connaît à peine, quoi.
Bah si tu veux, on peut boire un café, là, maintenant ?
Non, mais laisse tomber, je vais payer sur Blablacar, là je serai sûr.
Bah, et tu veux pas boire un café quand même ?
Ouais, mais je vais le boire tout seul, comme ça je pourrais réserver mon trajet sur mon smartphone.
Faire la route tout seul, vous connaissez, non ? Ça coûte cher, ce n'est pas bon pour l'environnement et c'est plutôt ennuyant. Alex a choisi une autre manière de voyager, avec covoiturage.fr.
Alors, Blablacar, on met en relation les conducteurs qui font un trajet avec des places libres et les passagers qui veulent faire le même trajet.
C'est bien plus sympa, plus écologique et il partage même les frais d'essence et de péage avec ses passagers.
Donc, très concrètement, le conducteur, s'il arrive à avoir 3 passagers dans sa voiture pour faire le trajet, il ne paye plus son trajet, c'est les passagers qui prennent en charge l'essence et le péage. Et du côté des passagers, ça permet en général de voyager 3 fois moins cher que le train. Alors moi, je suis Laure Wagner et j'ai eu la chance d'être la première salariée de Blablacar. Et donc, je fais partie de l'équipe fondatrice et aujourd'hui, je suis responsable communication.
Covoiturage.fr. Bientôt, c'est vous qui en parlerez.
Alors moi, j'ai commencé à faire du covoiturage quand c'était pas automatisé, quand on échangeait nos numéros et puis on s'organisait comme ça, quoi. Moi, j'habitais à Paris, ma copine à Lyon, et donc je faisais des allers-retours régulièrement pour aller la voir. À l'origine, c'était une espèce de communauté où les gens se faisaient confiance. Et puis, des fois, on posait un lapin, et puis, c'est pas très grave, quoi.
Donc, il y avait à peu près 33% des covoiturages qui finissaient en annulation de dernière minute ou en lapin. Enfin, c'est vrai qu'avant, c'est la nature humaine, hein, on peut pas reprocher ça aux gens, mais quand on paye pas quelque chose, si le même Jérôme pour Paris-Lyon, il nous dit d'être demain à 16h gare de Vaise, et puis on lui dit oui, j'y serai, mais bon, si on n'a pas payé, si on a un empêchement, juste on lui envoie un texto en dernière minute en lui disant je viens pas, voire même, il y a plein de gens qui ne prévenaient pas. Ça, c'était horrible.
Je sais que les mecs postaient 2-3 annonces pour le même trajet pour être sûr de ne pas avoir de lapin. Et donc, ils se retrouvaient après sur le parking avec 7-8 personnes qui débarquent au rendez-vous. Puis ils disent, toi tu montes. Puis les autres, salut, quoi. Donc, c'est peut-être à partir de là, il y a eu des plaintes. Puis, ils ont automatisé le truc pour qu'il y ait plus de problèmes.
Nous, quand on a mis en place le paiement en ligne, on est devenu quelque chose de fiable et d'accessible aux gens qui nous auraient dit avant « Ah non, le covoiturage, ah non, mais j'ai trop peur de ne pas savoir avec qui on part. » Alors que maintenant, on dit « Non, mais c'est une vraie personne, on a son RIB, c'est sécurisé. » Et ben ces gens-là s'y mettent maintenant. Et il l'aurait pas fait avant.
Ce qui est marrant, c'est qu'au moment où ça s'est automatisé, les gens se sont mis à s'adresser aux conducteurs comme si c'était des prestataires de service, quoi. Moi, par exemple, j'ai eu une nana une fois qui m'appelle, donc elle avait réservé une place, et elle m'appelle la veille pour me dire « Oui, voilà, il y a ma petite sœur qui voudrait aussi venir. Est-ce qu'elle a un demi-tarif ou comment ça se passe pour les jeunes qui ont moins de 12 ans ?» Et je lui dis « Attends, moi, je suis pas la SNCF, il n'y a pas de cartouche 25 ans ici. Enfin, je propose des places. » Voilà, j'ai 2-3 places, voilà, c'est à prendre ou à laisser, mais je suis pas une société de transport, quoi. Donc voilà, ça c'est le genre de rapport un peu que se sont installés entre les gens, et c'est ça qui a fait que ça a vraiment changé, quoi.
Il y a une autre économie qui est possible, en arrêtant de gaspiller les ressources, en privilégiant l'usage plutôt que la propriété. Donc en fait, on va mettre dans cette catégorie de consommation collaborative tout ce qui est covoiturage, autopartage, ou de, on va mettre dedans aussi le logement chez l'habitant. Donc en fait, tout ça, ça remplace ça permet d'optimiser des ressources, que ce soit donc une chambre d'amis qui ne sert pas, une voiture qui ne sert pas, des places libres dans un trajet qui ne sert pas. Chacun devient du coup un peu pourvoyeur, diffuseur de ressources. Et du coup, chaque personne a besoin de devenir un peu une marque parce qu'elle a besoin qu'on lui accorde sa confiance.
Après le trajet, ils se laissent des avis, gardent de bons souvenirs de cette expérience et pensent déjà à leur prochaine destination.
On a beaucoup travaillé là-dessus. Et dans cette économie collaborative, la clé de voûte, c'est la confiance entre les gens. Et pour que ça marche, on s'est rendu compte que il faut que les gens remplissent leur profil, mettent une photo et des avis. Enfin, c'était vraiment très important de jouer le jeu du communautaire en disant qui on est et en jouant franc jeu, transparence.
Ah bah justement, la communauté, elle y est plus. À partir du moment où ils ont automatisé le site, la communauté a complètement éclaté. Et ça a ramené plein de gens, des mecs qui sont des transporteurs, qui n'ont pas envie de se prendre la tête, claque, qui postent leur annonce et ils prennent 2-3 gars. T'as aussi tous les VRP qui font le tour de la France et qui sont certainement défrayés, hein, mais qui prennent quand même 2-3 gars. Donc la communauté, non, elle est plus là. La communauté, elle est plus là du tout.
Ouais. C'est vrai qu'on a observé, mais c'est normal, sur tous les sites qui fonctionnent bien et qui ont du succès, ont forcément des gens qui essayent d'en profiter. Donc oui, on a observé, surtout sur le trajet Paris-Lille, Paris-Bruxelles, des personnes qui, on l'a appris, étaient au chômage et se sont dit « Ah, il y a un filon, je vais faire des allers-retours, et puis avec un minivan, et puis voilà, seulement bon, leur calcul n'est pas très bon, parce que c'est interdit de faire du bénéfice en covoiturage. » Alors ça, c'est très important, le covoiturage, c'est plein de business, on doit juste partager les frais.
Ah ouais, mais il y en a beaucoup. Entre Paris et Lyon, il n'y a qu'à regarder, de toute façon... Il n'y a qu'à aller sur le site et taper Paris-Lyon. Tous les jours, t'en as une dizaine, voire une quinzaine, qui font ça, qui font un aller-retour tous les jours. Voire deux allers-retours, des fois. Ce qui est un peu dommage, c'est que les mecs, en fait, te mentent. C'est-à-dire que tu montes dans leur bagnole, on est 5, on est complètement serré. T'as payé 30€ ton trajet. Le mec te dit « Oui, j'avais un rendez-vous à Paris. » Il a même pas l'honnêteté de te dire « Bah non, moi, je fais ça, c'est devenu mon boulot. » Ce que je peux comprendre, enfin, je veux dire, chacun fait son boulot, on gagne tous notre pognon un peu comme on peut. Mais là, le mec a même pas l'honnêteté de te le dire, quoi. Donc, il a déjà 5 heures de trajet dans la gueule. Il conduit à 150 km/h parce qu'il a qu'une envie, c'est de rentrer chez lui. Et puis, il écoute la radio et toi, t'es là à l'arrière, tu fermes ta gueule et puis tu dis rien. Et puis, t'attends que ça passe.
Nous, en fait, on leur fait un petit peu la guerre, hein, donc on a fermé leur compte. Avant qu'on ait un système de réservation en ligne, on pouvait fermer leur compte juste en observant le nombre de trajets qu'ils publiaient, etc. Et en fait, maintenant qu'il y a un système de réservation en ligne et que donc les frais sont payés, enfin les passagers payent en ligne et que donc nous on fait un virement au conducteur, et bien en fait, ils sont plus sur notre site parce que ces gens-là voulaient que l'argent reste un peu invisible, que ce soit du cash, de la main à la main. Or, c'est plus possible par notre biais. Donc, soit ils ont arrêté, soit ils le font de manière sauvage, c'est-à-dire se mettre devant les gares et appeler les gens, voilà, comme ça. Mais c'est une pratique qui a quasiment disparu, et ceux qui essayent de s'y remettre, leurs comptes sont fermés dans les 10 minutes, en fait, au moment où ils essayent de poster une annonce.
Ah bah, l'automatisation, de toute façon, ça n'a rien changé, ils sont toujours là. C'est souvent eux qu'on le tarif le plus cher. Donc au final, c'est eux qui rapportent le plus de fric à covoiturage. C'est devenu un truc où on se fait de l'argent, où on essaie de voyager pour pas cher, quoi, alors qu'à l'origine, c'était pas vraiment ça, quoi. En fait, avant, on faisait notre trajet, on était 5 en bagnole, et puis quand on arrive à la fin, bon, bah, on divise le prix, quoi. Par exemple, des Paris-Lyon, c'était à peu près 70 euros, tu vois. Au final, si on est 5 dans la bagnole, ça fait 10-15 euros, voire 20 euros, mais pas plus. Et ce qui se passe, c'est que là, en fait, ils ont complètement... ils estiment, en fait, le prix, et souvent, leur estimation, elle est beaucoup trop élevée, quoi. C'est-à-dire qu'il y ait 2, 3 ou 4 personnes en tant que passagers, ils vont fixer 28 euros pour un Paris-Lyon. Mais à 5 personnes, ça fait pas 28 euros, quoi, tu vois. Parce que le trajet, il coûte pas 100, 110 euros, il coûte 70 euros à peu près. Donc, mais pour eux, c'est tout bénef, parce que ils gonflent le prix, donc comme ils ont leur pourcentage dessus, ils empochent plus de pognon sur chaque trajet, quoi.
Notre métier maintenant et notre modèle économique, c'est la mise en relation de conducteurs et passagers de manière fiable.
Le covoiturage est un nouveau moyen de transport fiable et illimité.
Un trajet qui est à 20 euros, le conducteur dit « moi je fais ce trajet, je prends 3 passagers, je veux récupérer 20 euros par personne », et bien en fait les passagers en ligne ils vont payer 22 euros et quelques centimes. Et c'est cette commission qui est prélevée sur ce que paye le passager qui nous permet de vivre. Si on pouvait s'échanger le téléphone avant de réserver, donc concrètement avant de payer, vous n'auriez pas besoin de payer. Donc en fait, le numéro de téléphone, c'est la carotte pour... Tu as tous les éléments, tu sais quand il part, tu as tout. Donc si tu veux vraiment faire le trajet, tu payes en ligne et tu obtiens le numéro de téléphone.
Mais bon, voilà, idéalement, il faut aller voir d'autres sites, quoi. Il y a d'autres sites qui proposent d'échanger les numéros de téléphone et de se démerder et de fixer un prix à l'arrivée, quoi. Ce qui est quand même le principe du covoiturage. Parce que là, c'est plus du covoiturage. À partir du moment où le prix est fixé et où que tu aies 1, 2 ou 3 passagers, que ce soit le même prix, on est dans un rapport de transporteur, quoi.
De toute façon, vu que les messages sont modérés, j'imagine qu'ils vous interceptent si les gens commencent à s'organiser comme ça.
Ouais. Effectivement.
Pour dire viens, enfin, ouais, on est derrière le poteau.
Exactement. non, il faut jouer le jeu. Nous, on met en place un service de mise en relation qui est hyper performant. Il faut. C'est aussi ça le partage. Il faut accepter de nous remercier, d'être conscient qu'il y a énormément de coûts derrière et que payer en ligne, ça permet de participer. Il faut le voir comme un don pour nous aider et nous remercier d'avoir créé ça.
Jusqu'à 19h.
Méga Combi, Prime Team, Prime Time, Prime Tube.
On estime qu'on perd en moyenne plus de 5 heures
Frédéric Matella,
par mois,
patron de Blabla,
à se construire des nouvelles relations de confiance avec des nouvelles personnes dans des nouvelles situations. À l'échelle de l'Europe, ces 5 petites heures représentent plus de 400 milliards d'euros de valeur perdue par manque de confiance.
Ces derniers temps, j'ai beaucoup fréquenté les sites de covoiturage pour préparer l'émission et puis aussi parce que je faisais beaucoup de longs trajets en voiture. J'ai toujours mis les annonces sur Blablacar et sur un autre site, covoiturage-libre.fr. C'est un site géré bénévolement par des gens qui veulent restaurer l'esprit authentique du covoiturage, loin des puissances funestes du capitalisme et entièrement gratuit. Il y a beaucoup moins de monde. C'est moins pratique, c'est vrai. Parmi mes covoitureurs et covoitureuses, presque tous sont arrivés via Blablacar. Pour beaucoup, c'était nouveau et assez joyeux de se mettre au covoiturage. La belle communauté d'avant, où on partageait les frais sans intermédiaire, ils ne l'avaient pas connue et ils s'en foutaient. Deux filles d'environ 25 ans sont même tombées d'accord, pendant qu'on discutait, sur le fait que, en tant que meuf, elles n'auraient jamais osé laisser leur numéro sur un site accessible sans payer. Et que c'était vraiment pratique ce système de réservation et d'avis. Cette fameuse confiance, dont Frédéric Mazzella et sa responsable com nous rabâchent les oreilles, je l'ai donc rencontrée en vrai. Et à première vue, ça m'a pas fait tellement froid dans le dos. C'était même plutôt plaisant de rencontrer ces gens qui se motivent à laisser leur voiture au parking pour venir remplir celle de quelqu'un d'autre. Et manifestement, ils sont nombreux. Rien n'empêche les 2 millions de nouveaux membres de Blablacar de s'organiser autrement, par exemple sur covoiturage-libre.fr, mais ils ne le font pas. Il faut alors prendre la mesure de l'adhésion populaire à toute cette grande mécanique de la confiance numérisée et capitalisée, du fait que ça marche. Et essayer de tenir ensemble l'effroi que suscitent les super-pouvoirs de Trustman avec l'évidence du pratico-pratique, cette évidence ressentie par des millions de gens. Parce que se faire croire que c'est pas si pratique que ça serait juste une arnaque, je pense que c'est louper le coche. Les solutions techniques, pratiques, forment un immense piège qui nous traverse tous et toutes, et non pas un monstre abstrait qui suffirait d'affronter de l'extérieur. Et heureusement que Super Trustman vient nous faire peur pour nous aider à mieux comprendre ce piège-là.
Méga Combi Prime Time.
When I touched you, I felt that you still had your baby fat. And a little taste of baby's breath makes me forget about death. At your age, you're still joking. It ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly. In the death car, we're alive. In the death car, we're alive. We're alive. And I wanna hear some mandolins.
Soyez dans les transports ou pas, vous écoutez Radio Canu, il est 18h30 passé de 5 minutes.
Méga Combi,
Salam El Kobri.
Salam Combi, tout de suite les news express régionales.
Et on commence par ce drame du low cost ordinaire.
Et oui, c'est 143 touristes français partis avec la compagnie Mare Nostrum pour un séjour de 7 jours en Tunisie ont vu leur vol retour annulé et doivent à présent retraverser la Méditerranée sur une galère sordide. À fond de cale, fouettés continuellement par des contremaîtres sadiques, les survivants devraient arriver en vue de Marseille d'ici une semaine, selon les vents et s'ils arrivent à se coordonner pour ramer en cadence.
Une prouesse technologique, le porte-conteneur Jules Verne a été inauguré hier dans le port de Marseille.
Et il a des dimensions uniques au monde, près de 400 mètres de long, 54 mètres de large, et il pourrait transporter 5 Airbus A380, mais empilés les uns sur les autres, ce qui serait complètement con.
Il pourrait également charger la Tour Eiffel pour, par exemple, la transporter jusqu'au Groenland, ce qui n'a absolument aucun sens. On pourrait aussi poser dessus Notre-Dame de Paris ou encore le Taj Mahal, mais il est à parier que cela ne se fera jamais. Du coup, le Jules Verne devrait surtout servir à transporter des milliards de sachets de chips et de rouleaux de sopalin à destination des foyers d'Europe occidentale.
GG Airlines, un nouveau service aérien de proximité.
Gérald Lopez était au RSA depuis bien longtemps quand il a hérité du terrain de son oncle situé dans la Dombe. Passionné d'aviation, fan de Top Gun, il a ensuite dégoté un petit bimoteur sur le Bon Coin et propose désormais des vols low cost à destination de l'aéroport Saint-Exupéry à des prix concurrençant le Rhône Express. Alors si vous avez de la chance, GG vous fera peut-être faire un petit looping juste avant d'atterrir sur la piste d'urgence proche du terminal 3.
À Lyon maintenant, la ligne E du métro a ouvert ce dimanche.
La ligne E, c'est une ligne située à plusieurs dizaines de mètres sous la surface et qui fait le tour du parc de la Tête d'Or. Elle est destinée aux joggeurs fatigués, une ligne qui s'est malheureusement avérée non connectée au réseau et qui tourne en boucle sans arrêt. D'ailleurs, les premiers passagers sont toujours dedans et à part en cas de coupure électrique, ils risquent d'y rester encore longtemps.
Lyon toujours, le projet d'ascenseur Clando est en passe de voir le bout du tunnel.
En effet, le mouvement est parti d'un collectif de riverains du plateau de la Croix-Rousse, un mouvement qui refuse d'accepter de rester à l'écart de la mobilité induite par le tunnel piéton qui reliera d'ici l'an prochain les bords du Rhône et de la Saône, passant sous la colline de la Croix-Rousse.
Ainsi, les militants du collectif On la bien profond dénoncent l'effet tunnel et creusent depuis des mois sous le gros caillou, faisant descendre peu à peu leur monte-charge artisanale confectionnée à partir de palettes Monoprix. Ils sont en passe de réussir l'exploit, plus que quelques mètres de caillasse à extraire, et ils devraient déboucher sur le tunnel piéton. Conséquence négative, les gravats dégagés sont en passe d'ensevelir le théâtre de la Croix-Rousse.
Et puis n'oubliez pas, mercredi prochain aura lieu à Lyon une simulation d'attentat.
Et pour l'occasion, le trafic sur la ligne B sera légèrement affecté. Et pour que l'exercice soit le plus crédible possible, plus de 900 personnes, intervenants et victimes, vont être mobilisées. On cherche d'ailleurs toujours 3 figurants pour jouer le rôle des terroristes. Alors si on vous dit souvent que vous avez le regard fuyant, que vous transpirez facilement et que vous maîtrisez une langue rare, vous êtes prié de vous présenter au siège des TCL pour le casting qui aura lieu demain après-midi.
Enfin, attention avec le retour de la chaleur, il y a risque de pollution sur toute l'agglomération, alors pensez très fort aux transports en commun.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Veillez à ne pas vous faire descendre à la prochaine station.
Pénélope ? C'est bien toi ?
Oui. Oh putain, Ulysse, comment ça va ?
Ben, ça va. C'est drôle de te voir. Ça fait quoi, 10 ans ?
Ouais, c'est ça, à peu près. Depuis la terminale.
Là, je revois Simbad de temps en temps.
Et tu sais que Agamemnon s'est marié ?
Non. Avec qui ?
Hélène. Mais je sais pas si tu la connaissais.
Je sais plus. C'est loin. Et tu fais quoi, maintenant ?
Eh ben, je bosse dans une entreprise d'équipement qui fabrique des radiateurs électriques. Ouais, bon, c'est juste un taf alimentaire. En fait, je vais bosser dans l'isolation thermique.
Ah ouais, ouais. Ouais, en plus, avec le froid qu'il fait... Et tes parents, ils vont bien ?
Bah ouais, ça va, ils gardent la forme.
Toujours à Ithac ?
Ah non, non, ils ont déménagé il y a quelques années en Floride. Et puis, tu sais peut-être pas, mais j'ai eu un fils.
C'est vrai ?
Bah ouais, il s'appelle André, il a 5 ans. En fait, je voulais l'appeler Télémaque, mais son père n'était pas d'accord.
Et t'es heureuse ?
Bah, ça va, la vie de tous les jours, quoi, mais ça va. Et toi, tu voyages toujours ?
Oh, moi, ouais, par-ci, par-là. J'étais à Perrache, là, les 8 derniers mois. Puis là, je vais passer la fin de l'hiver à Bonneville, je pense. J'ai des potes troyens.
Toujours les mêmes. À part ta barbe, t'as pas changé, hein ?
Toi non plus. Tu sais... J'ai toujours voulu te dire un truc, quoi. Ça me restait sur le cœur.
Ah, c'est mon arrêt, c'est là que je m'arrête.
Dis, Péné, tu te rappelles ce cours de SVT en terminale, là ? T'avais posé ta main sur ma cuisse.
Non, je me rappelle pas.
Ça a duré juste quelques secondes, tu te souviens pas ? Moi, je ne cesse d'y penser depuis tout ce temps.
Ouais, mais c'est loin tout ça. Bon, ben, salut, Ulysse, hein, à plus.
T'as pas un numéro, là, qu'on boive un coup à l'occasion ? Ou tiens, attends, je te laisse mon numéro de tatou.
Non, mais laisse tomber, Elise, ça ferait du mal. Allez, ciao, Bello.
Ben up, attends.
Méga combi, prime time.
Fini les cocktails, Malakoff, les idées de Marx. Tu dors moi, tu rames, but, alors Chaumont, plutôt que faire le Valois. Le volontaire pour l'école militaire, y'a mal donne. Plutôt crever que donner sa sève à Babylone. Ça se passe ici, ça le fait Rino Placide. Je bois une belle porte quand Jacques le bon sergent garde sa bagnolette devant ma porte d'Orléans. Merdeur, un fuc terme, sans odeur. Raconte un monceau de clichy que tout le monde connaît, Pasteur. On s'en bat, Marcel, on a le Béro, les billons Tourcel qui font les hyénas. Les cartons Vavin souhaitent la bienvenue à Montparnasse. Faut que j'une mes bourses, rue de la pompe. Mon piquet dans ta motte, mon galet dans tes trompes, ta châtelet pourri sans la poissonnière. C'est de la chair en ton, c'est pas du Luxembourg, fille du calvaire. J'ai attrapé de l'exhalement, c'est l'enfer. Je prends le chemin vert, au lieu de trocade, les roues à planche, respire le bel air. Change de commerce, ton client court dans ta cité. Pour 20 grammes de hachiche parmentier, pour chercher le Havre, pour comme Harvey, monter jusqu'aux Champs-Élysées, pour comme Atec. Sur la grande arche de la défonce, alors laisse-toi bercer par le rythme saccadé. Ma musique s'est perdue dans les couloirs.
T'es sur le morail en duplex, tu quêtes la rapée. Odéon, joue le vice et Saint-Lazare. Laisse-toi bercer par le rythme saccadé. Ma musique s'est perdue dans les couloirs. T'es sur le morail en duplex, tu quêtes la rapée. Odéon, joue le vice et Saint-Lazare. T'es sur le morail en duplex, tu quêtes la rapée. Odéon, joue le vice et Saint-Lazare. Laisse-toi Bercy, hey. Monsieur, ramène pas ton Kléber, me cherche pas les Tuileries, je pas les Rasta, y'a ce petit jeu Gabriel. Tu dis que t'es proche, ça passe un clou, mon œil, ça se voit sur ta gueule que tu portes le maillot d'Auteuil. Me fais pas gobelin, sensier de la daube en bâton, comme des piques musquettes, on va de Barbès, t'es Louis Blanc, choisis le roi, moi je pour la reine, port royal, t'as voulu la couronne, maintenant tu peux toujours tracer à Varennes, je charonne. Voltaire, pars sous la guillotine, on te retrouvera à Bastille, pas le temps de t'exiler à Argentine. Quentin, je fais du gommier, ton brochon à la fourchoche, la teuté, ton Saint-Sulpice, c'est un crimé, sentier, puis on sait ce que tu vaux, Gérard, m'en vu pied. Énergumène, t'es condamné à errer dans le marais, faire la dragraine. T'auras beau mettre l'arrêt au mur, Sébastopol. Tu seras prendre à l'envers, à la station, à Nus, par sa vol, la veste, le froc, Gambetta. Il te met son Jourdain, son Ménilmontant, c'est du rock. Tout droit dans l'Osman, la docénie, la Clichy, tu gémis, t'es invalide, t'as le trou de ballard, enferme et je ris d'ici. Va te faire masser, n'a pas Edgar le kiné. Faut qu'on t'opéra, trop tard t'es sa mort et je porte des lilas. Sur ton corps bizarre, direction père, la chaise. Sablon, le champéret, dis-moi ton nom. La ligne 13, laisse-toi Bercy par le rythme saccadé. Ma musique s'est perdue dans les couloirs. T'es sur le morail en duplex, tu quêtes la rapée. Odéon, joue nos vies, c'est Saint-Lazare. Laisse-toi Bercy par le rythme saccadé. Ma musique s'est perdue dans les couloirs. T'es sur le morail en duplex, tu quêtes la rapée. Odéon, joue nos vies, c'est Saint-Lazare. Alors
écoutez Méga Combi sur Radio Canu, l'émission qui souffle sur les rails.
Mesdames, messieurs, dans quelques instants, nous arrivons en gare d'Avignon TGV. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à votre place. Prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai lors de votre descente. Vos chefs de bord et toute l'équipe TGV, membre de l'Alliance Rail Team, vous souhaitent une bonne fin de journée. Ladies and gentlemen, we soon be arriving at Avignon TGV for a short stop. Please make sure you take all your belongings with you before you leave the train. Ladies and gentlemen, will you please bind the gap between the stairs and the platform when you get off the train? Your train managers and the TGV crew, members of the Old Time Alliance, wish you a pleasant day.
The TGV 9575 coming from Paris Est und nach München. Abfahrt 17:48 Uhr werden einfahren Gleis 3. Bitte von der Bahnsteigkante. In den Mund der
J'aime pas les TGV, même quand ils se la jouent trilingue, même quand ils dépassent les frontières du réseau hexagonal, j'aime pas les TGV. Alors bien sûr, je reste volontiers impressionné par la prouesse technique de la grande vitesse, mais je les trouve trop propres ces trains, comme s'ils voulaient justement dissimuler leur statut de train, à tel point d'ailleurs qu'ils nous feraient oublier qu'on se déplace. Dans l'habitacle du TGV, c'est silencieux, ça ne secoue pas, à peine est-on perturbé par les paysages que l'on traverse à toute allure. Sans s'arrêter naturellement. L'idéal du TGV, c'est de ressembler à l'avion, un univers aseptisé, très loin du ferroviaire. Non, moi ce que j'aime, c'est les trains qui n'ont pas honte d'être des trains. Moi j'aime les tortillards, j'aime les intercities, j'aime les trains de nuit, j'aime les omnibus. J'aime les autorails, j'aime les petites lignes en cul-de-sac, j'aime les gares désuètes. J'aime les trains qui brinquent-ballent, les bogies qui claquent, les châssis qui grincent, les freins qui couinent. J'aime les arrêts inopinés en pleine voie, j'aime les gares de triage marchandises. J'aime devoir attendre le train d'en face pour pouvoir continuer sur la voie unique. J'aime traverser les villes en voyant l'envers du décor, pas du côté de la rue mais du côté des rails. J'aime les arrêts techniques, changement de locaux, changement de cheminots, changement de je ne sais quoi. Au milieu de nulle part, on s'arrête. Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est traverser les frontières en train. Le temps semble s'arrêter, comme suspendu entre les deux pays. Parfois, il faut changer de train. Plus souvent, c'est le train qui change pour passer aux mains de la compagnie du pays où l'on arrive. Nouveau contrôleur, nouvel uniforme, nouvelle locomotive, formalité douanière, tic-tac, le tampon sur le passeport, et on repart. On se retrouve alors ailleurs, nouvelle langue, nouvelle ville où le convoi s'arrête. Serait-on perdu ? Bien sûr que non. Les deux lignes perpétuellement parallèles des rails continuent de nous guider.
Éloignez-vous des forces de l'ordre, s'il vous plaît. Merci de votre vigilance.
Radio Canu 102.2.
Merci aux rebelles. La destination de l'île Flandre va partir. Attention à la fermeture automatique des portes. Il dessert Lyon, Marne-la-Vallée-Chessine, et pour Roissy-Charles-de-Gaulle, TGV de Picardie, Arras et Douai. Les 10 et 12 dans la TGV de l'île Flandre, les Bottolines, Piston de Pierre, The Closing Door. Thank you.
Bonjour.
SNCF, le jour où ma haine de la SNCF s'est avérée, c'est celui où j'ai vu que sur les panneaux des trains au départ, il y avait une nouvelle colonne. Train à l'heure, c'était écrit. Train à l'heure. Comme si la SNCF voulait qu'on la remercie parce que ses trains sont à l'heure. Donc si c'est écrit sur les panneaux, c'est qu'ils pensent que ça se doit d'être signifié. Et ça veut dire que ce n'est plus une évidence que le train soit à l'heure. C'est fini ce temps-là. Ou comment faire accepter petit à petit qu'on ne vous doit pas ce service, que vous ne payez pas pour ce service. Vous payez plutôt pour les beaux écrans digitaux qui vous annoncent que les trains sont exceptionnellement à l'heure. Pourtant, j'ai tant aimé la SNCF, et la SNCF me l'a bien rendue. Elle m'a emmenée partout en France avec mes 50% de réduction de ma carte 12-25. La SNCF me voulait du bien à cette époque-là. Mais mon histoire est finie avec la SNCF. Je l'ai trompée avec le covoiturage, puis j'ai ensuite quitté le covoiturage pour le stop. Aujourd'hui, et sûrement demain, la SNCF est clinquante, propre. Elle a l'air vachement sympa. Elle te fait croire qu'elle t'aime, mais elle se défile en vrai. Tout est dans les mots, les apparences, mais les actes ne suivent pas, si vous voyez ce que je veux dire. La SNCF, entreprise publique qui se prépare à la concurrence, publie des horaires et ne les respecte pas. La SNCF te vend du rêve parce qu'elle a toujours une idée d'avance. La SNCF est sympa si t'allonges la monnaie pour aller d'une grande ville à une autre grande ville, d'une capitale à une capitale européenne de la culture, par exemple. Pour faire des affaires ou du tourisme, du business, du biz dans l'IDESAP. Plus d'usagers, mais une clientèle qui prend le TGV pour aller vite à une réunion et revenir quelques heures plus tard. La SNCF est moderne, technologique, rapide. Un air propre et climatisé aussi. Une bonne clim qui marche bien. Et la SNCF a tellement envie de te faire remarquer sa nouvelle clim dans le TGV qu'elle la met à fond. Et puis des petits bruits dans les haut-parleurs, comme dans les aéroports. Et des conducteurs de train qui nous parlent en se présentant comme des commandants de bord. Le TGV se prendrait-il pas pour un avion, telle la grenouille qui se gonfle d'air le plus possible pour ressembler au bœuf ? La SNCF, c'est avant tout un univers. Un monde sécurisé avec parfois des gentils animateurs dans les wagons, des agents de sécurité ferroviaire, des commandants de bord. Et même la police nationale dans les trains à risque. Mais pas sécurisant. Des panneaux d'affichage digitaux comme des vraies grandes télés, grands écrans avec des belles couleurs pour te dire que ton train est en retard. Ou pour rien te dire du tout d'ailleurs, mais que ton train est en retard, mais ton train est en retard quand même. Sous-traitance, priorité au TGV pour être à l'heure plutôt qu'au TER, moins d'arrêts aux petites gares, moins de petites gares tout court d'ailleurs. La SNCF s'en tape complètement de toi dans ta campagne. Si tu prends le train dans ta campagne, c'est que t'as pas de thunes, sinon tu prendrais ta voiture qui marche toujours mieux que le train. Enfin si, la SNCF s'intéresse à la campagne pour y mettre des gares TGV, toutes coquées de verre et de béton, et y mettre plein de parkings partout pour que t'y viennes quand même avec ta voiture. Comme à l'aéroport. Avant, la SNCF était populaire. Aujourd'hui, elle est moche. La majorité de son budget va à la communication et à la pub. Entretenir une image avant tout. La SNCF, c'est que de la gueule. Avant, la SNCF et moi, on s'aimait. Elle me voulait du bien. Elle était cohérente dans ses mots et dans ses actes. Je suis trahie. C'est moche. La SNCF ne nous veut pas du bien. Elle veut être une marque pour être compétitive. Parce qu'on est à l'ère de la mobilité, parce que se déplacer vite, c'est cool, parce qu'une gare, c'est propre. La SNCF surfe sur la vague du cool, du propre, du riche. La SNCF se prépare à faire encore plus de bénéfices. Je hais la SNCF. T'es moche, SNCF, avec tes couleurs tendances. T'es moche avec ton mépris des petits trains régionaux. T'es moche, t'es moche.
Mesdames, messieurs, dans quelques instants, la gare de Lyon-Part-Dieu, avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à votre place. Prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai lors de votre descente. TGV, membre de l'Alliance Rail-Team, vous souhaite une excellente fin de journée. Ladies and gentlemen, we soon be arriving at Lyon-Part-Dieu station for a short stop. Please make sure you take all your belongings with you before you leave the train. As the train comes, members of the whole time, Alliance wish you a pleasant afternoon. Please mind the gap between the stairs and the platform when you get off the train.
À 18h
sur Canu. We'll be right back.
Faire du stop, c'est découvrir ce qu'il y a derrière les glissières d'autoroute.
Le stop, ça peut être dangereux, inattendu, aléatoire, euphorisant.
Faire du stop, c'est gratuit.
Le stop, ça peut être galère, mais si tu connais la technique du chop, c'est vachement moins un calvaire. Le chop, c'est quand t'as le pouce levé, l'automobiliste te regarde dans les yeux, et c'est à cet instant-là que tu peux lâcher un bon gros chop. Et là, tout d'un coup, la voiture s'arrête.
En autostop, pas de problème de rendez-vous. Où que tu sois, à n'importe quelle heure, ta voiture est loin. Et là, pas besoin de profil sur internet avec des bonnes notations validées par une carte bleue. La confiance s'établit en un millième de seconde, au premier coup d'œil.
Des fois, t'attends très très longtemps au bord de la route, et puis d'un coup, t'as une famille de Hollandais babos complètement barrés qui s'arrêtent et qui peut faire 250 km.
Faire du stop, c'est parfois se mettre là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied.
En stop, si tu tombes en panne, tu laisses la voiture sur le côté et t'en prends une autre.
Faire du stop, c'est parfois galère, mais une fois à destination, je suis plutôt fier.
En stop, tu fais des rencontres improbables. Tu peux même être pris par des auditeurs de Radio Canu, fans de Christine Boutin.
Oh, tu vois le jeu ?
Salut. Je vais sur l'autoroute. Enfin...
De l'hélicoptère ?
Ouais, pas d'hélicoptère.
Niveau stop.
Allô ? Niveau stop.
Reportage sur la route.
Reportage sur la route.
Je fais du son en stop.
Rencontre sur le pouce.
Rencontre sur le pouce.
Niveau stop.
Dans Méga Combi sur Radio Canu.
Vos propos à Radio Canu sont parfois d'une violence grande. Vous êtes méchant et agressif, voire haineux, vis-à-vis de tout ce qui porte religion.
Ah ouais.
Je n'ai jamais entendu autant de haine. C'est-à-dire de propos désobligeants, méchants, sur des gens qui ont la faiblesse ou le courage, je veux dire, d'être croyants. Des fois, je me dis, est-ce bien raisonnable ? Est-ce bien laïque ? C'est-à-dire laïque comme porteur d'une pensée raisonnable. Vous faites passer à l'antenne des musiques et des chansons qui
sont
carrément... on n'est pas loin de l'appel au meurtre, quoi. Je me souviens d'une chanson qui m'a laissé pantois. Mais citant des noms, des personnes... qui était donc vilipendé.
Ouais, je vois tout à fait ce que c'est. C'était du hip-hop, c'était Christine Boutin.
Ouais, des gens comme ça, en fait.
Christine Boutin, députée UDF, chargée par le pape de rechristianiser la France depuis 1993. Cette frigide organisée organise les réseaux anti-avortement.
Insultez-vous. Moi, je suis prêt à assumer les insultes qu'on peut envoyer à Christine Boutin. Elle est quand même gravement homophobe, elle remet en cause l'avortement. Et puis, comme ce qui est dit dans la chanson, là, c'est que... C'est les rapports qu'elle a avec des lobbies d'intégrisme religieux. Quoi.
Mais est-ce progressiste que d'être de ne pas être homophobe? Est-ce être rétrograde de considérer que l'homosexualité n'est pas un avantage? Est-ce rétrograde de considérer que l'avortement est un malheur? Dans l'avortement, dans la réalité de l'avortement aujourd'hui, quelle est la proportion d'avortement de confort? Quelle est la proportion d'avortement liée, à l'alcoolisme? Et on pourrait...
Non, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà avorté? Quelqu'un qui...
Non, je connais
quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui n'avait pas d'état d'âme, à qui ça n'a pas posé de problème? Avorter, c'est quand même un acte qui est lourd psychologiquement, et le genre de discours qui vise à dire, à remettre en cause l'avortement, à culpabiliser encore plus, enfin, c'est catastrophique, quoi.
Mais c'est pas qui est catastrophique. Ce qui est catastrophique, c'est éventuellement, un certain laisser-aller qui fait que les gens se retrouvent en situation d'avorter. Vous voyez, il me semble que parler de l'avortement, et on parle de Christine Boutin, on parle de l'avortement parce que vous référez Christine Boutin à une parole sur l'avortement, je trouve que c'est dommage de stigmatiser une personne, je veux dire, qui, me semble-t-il, refuse d'aborder l'avortement de manière univoque.
Enfin, si je comprends bien votre pensée, il ne s'agit pas de remettre en cause le droit à l'avortement, mais il y aurait des bons et des mauvais avortements. Il y aurait l'avortement de confort et l'avortement vraiment de détresse.
C'est deux choses différentes. J'allais dire, il peut y avoir une consommation modérée d'alcool, il peut exister des réalités tragiques qui conduisent à l'avortement.
Mais le jour où on aura des panneaux d'affichage où on disait « Femme, avortez », là, je vous comprendrai. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Avorter, c'est pas un acte simple. On n'encourage pas les femmes à avorter.
Radio Canu assure la promotion, j'allais dire, de l'avortement en disant et en répandant, alors, indépendamment des insultes à des personnes comme Christine Boutin, hein, assure cette promotion en disant « Mais l'avortement, c'est un droit. Usez-en comme vous voulez. » Alors qu'il y a bien là une réalité douloureuse pour les personnes qui sont concernées, et pas seulement les femmes. Il y a des hommes qui sont profondément victimes de l'avortement, n'oublions pas. Hein, accessoirement, ouais, pour un homme, faire un enfant, ce n'est pas anodin. Il se joue beaucoup de choses chez un homme qui fait un enfant. Ne l'oublions pas. Je veux dire, ne simplifions pas. Je vous dépose où?
Comme ça vous arrange, ou vous quittez la route.
Je vais vous déposer au carrefour.
Ok, merci.
Vous voyez, c'est là où je trouve que vos propos à Radio Canu sont parfois d'une violence grande. Alors la liberté, bien sûr. Mais la liberté, est-ce la liberté de l'intestin? La liberté de la digestion? La liberté de l'état d'âme qui va, qui vient? Est-ce la liberté du vent qui fait qu'un jour on souffle à droite et le lendemain on soufflera à gauche? Hein? La liberté, faire ce que je veux, quand je veux, là où je veux? Ou la liberté n'est-elle pas toujours obligatoirement référée pour pouvoir s'exercer à la loi? À la loi, à une loi, pas une loi. Allez, bonne route.
Les pourris catholiques adoptent des putains de tactiques. Pas pire que l'obusier et ses vues théocratiques. Parlons de cette secte sanguinaire fascisante. En mission mondiale, maintenant menaçante. C'est une association chrétienne internationale. Constituée de patrons de multinationales. De magnats de la presse et de la finance. De chefs d'État et d'autres éminences. Le but dissimulé de tous ces enculés consiste à ce que l'église gouverne la société. Infiltrée dans les institutions républicaines. Ils sont très influents dans l'Union européenne. Aucun doute. Ce sont des véritables fachos, associés, privilégiés du général Franco. L'Opus Dei a soutenu la dictature en Espagne avec l'appui des ordures vaticanes. Année après année, l'Opus Dei s'est renforcé contre la révolution qu'elle veut sans cesse écraser. Comme ce fut le cas quand elle finança les contrats exterminateurs du peuple au Nicaragua. Mais son pouvoir est bien plus fort que tu ne le crois. Son ombre se dessine derrière chaque croix, surtout celle portée par le pape Jean-Paul II, que l'Opus Dei a investi de tous ses voeux. Pas étonnant que les ordres
du souverain pontife. Je te commande anti-avortement des drastiques. L'objectif est diriger l'intimité des fidèles pour que tu pondes des gosses mais sans plaisir sexuel. L'air foulé du cul, que sont tous ces curés parce qu'ils sont frustrés et s'enfuient à baiser. Souffrent de profonds troubles psychologiques et en politique, je te garantis qu'ils sont sadiques.
Croire pendant des mois qu'il avait des contacts dans toutes les rébellions du monde et qu'il allait faire des grands reportages insurrectionnels toutes les semaines à l'antenne du 102.2.
C'est Gunther.
Il se prend pour une pointure du Gunther journalisme et ça fait maintenant un an qu'il voyage aux frais de Radio Canu. Alors on est bien obligé de temps en temps de vous diffuser des messages de
Gunther, le reporter.
Aujourd'hui, à 17h56.
Allô, c'est Gunther. Je vous appelle de Puerto Montt, au sud du Chili. Oui, après l'échec retentissant de ma campagne de financement pour ouvrir la première chaîne globale de Gonzo Téléjournalisme, j'en avais un peu ras la casquette des foirages à répétition. Alors je me suis dit, mon petit Gunther, il faut voir la réalité en face, t'as pas l'étoffe d'un Rupert Murdoch. Et puis surtout, t'as pas l'argent. Donc, j'ai décidé de repartir à zéro, prendre mon courage à bras-le-corps et mon gros sac à deux mains, et me voilà reparti sur les routes en quête de sujets révolutionnaires. Et ni une ni dos, voilà que mon vieux compère Armando m'invite à le rejoindre en Patagonie, dans les espaces sauvages du pays Mapuche. Il faut savoir que la guérilla Mapuche est l'une des plus anciennes du monde. Déjà, à l'époque des conquistadors, les Mapuche étaient le seul peuple indigène à avoir repoussé les agressions espagnoles et à garder ses terres. Il a fallu attendre l'indépendance du Chili en 1818 pour qu'une armée locale fortement armée de canons modernes arrive enfin à leur faire baisser la tête. Malheureusement pour l'envahisseur chilien, les Mapuches l'ont vite relevé. Et ça fait maintenant un paquet de décennies qu'ils narguent les autorités tout en revendiquant leur droit à l'autonomie. D'ailleurs, les Mapuches passent pour de sacrées terreurs en Amérique du Sud. Hein, et même les vieux briscards de l'EZLN en bavent d'admiration. Là-dessus, il se trouve qu'Armando m'invite à passer quelques semaines embedded avec le groupe de guerrilleros dont il est le médecin. Ni une ni dos, je saute dans le premier avion pour Santiago du Chili. Ce qui n'était pas, mais alors pas du tout une bonne idée. Si j'avais regardé de plus près, j'aurais vu qu'en fait de vol, il s'agissait plutôt d'une espèce d'épopée transcontinentale. Le premier avion m'a déposé à Doha. Là, ça allait parce que j'avais fumé toute ma beuh d'un coup avant de partir. Le second avion, en direction de Sao Paulo, j'ai pu avaler tous mes Valium. Nickel. Pour le troisième, j'ai tourné au whisky duty free et j'ai fini par débarquer tout guiré à Santiago 40 heures plus tard. Bon, après ça, j'ai dû prendre un bus de nuit vers le sud, Puerto Montt, 23 heures de calvaire sur les routes défoncées par le dernier tremblement de terre. Oui, celui de 2010, vous vous rappelez ? Un bon gros terremoto bien balèze qui a tout ravagé sur 5 provinces, et quand ça a eu fini de bouger, il y a eu le tsunami qui est venu raser tout ce qui restait encore debout. Finalement, j'arrive. Mon pote m'attendait dans un pick-up pour filer tout droit vers les montagnes. 7 heures de piste chaotique plus tard, nous arrivons enfin au camp du groupe Checutral. Ça veut dire « homme de feu » en Mapudungun, hein, la langue Mapuche. Mais là, il y a eu un bug, parce que le camp, il était vide, figurez-vous. Mon pote a écouté son répondeur, il y avait un message de son chef qui nous disait de les rejoindre au camp numéro 2. Apparemment, l'armée chilienne n'avait pas du tout apprécié leur dernière incursion à l'hôpital de Puerto Montt pour voler du matos médical, et les pistait de très très près. Donc ni une ni dos, on s'est dégoté chacun un cheval et on a pris les pistes qui serpentent à travers les Andes. Après une journée de canasson, j'avais tellement mal au cul que je commençais à délirer, à voir des Indiens partout, alors qu'en fait c'était juste des cactus. Enfin ça, il a fallu que j'aille embrasser un Indien avant de m'apercevoir que non en fait. Du coup mon pote était mort de rire, mais bon il a quand même décrété une petite halte le temps de soigner mes plaies parce que je pissais le sang des pieds à la tête. C'est que c'est balèze hein, le cactus Mapuche. Et c'est là que mon reportage est tombé à l'eau. Et parce que assis sur le bord du sentier, on a vu passer trois camions de l'armée chilienne avec à l'arrière des camions toute la guérilla Checutral au grand complet, menottes au poignet. Alors bon, voilà, vous avouerez que c'est pas de bol, quoi. Bon, mon pote était bien embêté pour moi, alors il m'a conseillé d'aller voir un de ses cousins, un ancien résistant du temps de la dictature de Pinochet qui anime une radio libre à Santiago, où ce sera beaucoup plus simple parce que là-bas, il y a des métros. Donc je pars dès demain pour la capitale et je vous livre un chouette sujet radiophonique pour la semaine prochaine. Allez, ciao, que se vaya bien.
Archivé. Fin des nouveaux messages.
J'ai longtemps que j'ai pas fait de vélo.
Méga combi, c'est fini. La prochaine méga combi, c'est mercredi.
dans un instant. Mais bon, on continue. Alors, l'apéro, le vélo et un dernier petit mot.
Ah, c'est cool!
Ah, le vélo!
Ouais.
C'est du bien.
Ah,
y a rien de mieux pour se déplacer, en plus il fait beau. C'est le vélo.
Et vous avez vu là l'instit avec sa classe là? Il a quoi dans le dos là?
Des sortes de petits réacteurs, hein?
Ouais. Ouais, ouais, on dirait que c'est un pédibus. C'est vrai qu'ils vont plus vite que la normale.
Ah, mais c'est le pédibus à moteur!
Ouais, ouais, c'est ça.
C'est
ouais.
Les Allemands qui ont fait ça. À Munich, j'avais vu une expérience et je crois que ça vient à Lyon maintenant.
Ah, c'est super!
Bon, ouais, c'est bien. En mode doux, quoi.
Eh, hey, c'est pas la peine d'aller si vite, hein. L'équipe du Canu Info, ils ont loupé leur métro, donc on est tranquille. Hein.
Ok, ok. Ouais. Et regardez ce mec là-bas qui fait des roulades. Eh bien, vous savez ce que c'est?
Non.
C'est le roulove. Ah, en fait, c'est un nouveau mode aussi de transport, pas, d'autotransport. On se love sur soi-même et hop, on part en roulade.
Ça, il fait bien, j'en ai déjà vu, mais il le faisait moins bien que lui. Il s'en sort vachement bien, non?
Ouh là là, il va se prendre le trottoir là. Ouf.
Ah oui, il appréhende bien la marche. Hein.
Ouais, par contre, là, il fait le malin, c'est en descente quoi.
Ouais, ouais. Plus pratique quand c'est en pente. Ouais.
D'ailleurs, là, on arrive sur les pentes. J'ai pas trop envie de monter.
Rassurez-vous, il y a le remonte-pente, là, à monter de la Grande Côte. Ça fait plusieurs campagnes municipales où ils nous le promettent. Ça y est, là, ils vont le mettre en place, là.
Yes.
Moi, je tombe toujours des tire-fesses.
Ouais. Bah, là, c'est... Non, mais c'est... ça tire ton vélo. Faut bien rester accroché dessus.
Ah, ok. Et vous avez vu le bus, là, il y a...
Oh putain, y a pas de chauffeur.
Non, pas de chauffeur.
Pas de passager.
Ah oui, pas de passager non plus d'ailleurs.
J'en avais déjà vu un comme ça du côté des cités Taz vers Vaux-en-Velin, Villeurbanne à la frontière.
Ah ouais.
Ouais.
Mais ça sert à quoi alors, je comprends pas.
Bah, je sais pas, peut-être ça décore, ça rassure les gens dans les quartiers qui sont pas trop desservis par les transports. Du coup, ils disent qu'il y a quand même des bus.
Ouais, c'est fait pour ça, je crois. Non,
c'est pas... Ah ouais, c'est pas bête. Bah du coup, ça coûte moins cher, quoi, c'est sûr.
Le Rhône Express, ils font ça aussi.
Tiens, c'est quoi ce tramway là qui a une remorque?
Ah, alors ça vient de Hollande. C'est le Trampay, c'est un tramway à méthanisation. En fait, la remorque là, elle est pleine de merde. Donc ça fait du gaz qui fermente et ça alimente une turbine. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de fil électrique, parce que c'est quand même assez moche. Mais le problème, c'est que maintenant, en plus du bruit du tram, bah, y a l'odeur.
Ça a été fabriqué vers Nantes, je crois.
Bon, bah c'est cool hein, cette petite balade.
Bon, bah très bien. On se voit la semaine prochaine.
Ouais. Yeah.
Bah moi je prends le métro. Hein.
Méga combi, c'est fini.
Radio Canus